Alors, la question que nous vous posions hier était la suivante. Les résultats des élections en Belgique vous conviennent-ils, oui ou non? Eh bien, le score est sans appel. Oui à 75% sur Facebook. Oui à 77% sur X, sur Insta, pardon. Et oui à 63% du côté de X, anciennement Twitter. C'est dire si nos auditeurs ont tranché cette question. Et Blaise van der Linden s'est entretenu à ce sujet avec Benjamin Billard, politologue au CRISP, et eh bien il est revenu sur ses résultats, notamment avec le score élevé du MR à Bruxelles et en Wallonie. Et on parle aussi, enfin Blaise en a parlé aussi avec Benjamin Billard, de la débâcle des écolos et des perspectives en vue de la création d'un prochain gouvernement. Tout un programme, c'est le cas de le dire. On écoute Benjamin Billard au micro de Blaise van der Linden.
Benjamin Billard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue au CRISP, spécialiste des extrêmes. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, les Belges étaient appelés aux urnes hier et c'est le MR qui l'a largement emporté en Wallonie et à Bruxelles. On a également observé une percée du parti des engagés de Maxime Prévost. En ce lundi, on a également appris la démission du gouvernement Alexander De Croo. Alors, à tête reposée, Benjamin Billard, quelle est votre analyse de cette journée d'élection?
Bon, il y a évidemment beaucoup d'éléments à souligner. Peut-être le premier, me semble-t-il, qui était presque annoncé dans les sondages depuis 5 ans, c'était le positionnement du Vlaams Belang, parti à l'extrême droite de l'échiquier politique. On en a déjà d'ailleurs parlé sur vos antennes. C'était un parti dont la quasi-totalité des sondages depuis 5 ans indiquait qu'il était en tête des intentions de vote. On voit qu'ici, certes, il a réalisé une très bonne performance électorale, sa meilleure depuis sa création au niveau fédéral, et la deuxième meilleure performance après celle de 2004 au niveau régional flamand, mais il n'a pas réussi à prendre le leadership et par voie de conséquence l'initiative gouvernementale en Flandre à l'occasion de cette élection, la NVA conservant le leadership et parvenant à profiter de sa situation. Ça, c'est peut-être un premier élément, un premier enseignement. Un deuxième, évidemment, c'est la progression des libéraux et des engagés dans une dynamique un peu différente. On ne peut pas exclure que des thèmes sécuritaires notamment, conservateurs aussi, aient permis au MR de tirer son épingle du jeu. Le style Georges-Louis Boucher, notamment à travers une forme de participe-opposition, où durant cette campagne on a senti à certains moments qu'il était presque davantage un parti d'opposition qu'un parti de gouvernement au niveau fédéral, au niveau wallon de la communauté française, par exemple, autant d'éléments, à mon sens, qui ont pu favoriser le parti bleu. Côté des engagés, il faut rappeler que le CDH dont il est issu s'est très mal porté en 2019. Il était à son étiage politique, le niveau le plus bas jamais rencontré par cette formation. Il a engagé par la suite un processus de refondation, ce fameux processus « Il fera beau demain », qui a conduit à la résurgence de, en tout cas la fondation, pour être plus exact, de ce parti, les engagés. Ajoutons à cela la dynamique imprimée par Maxime Prévost, le président de cette formation, et le recrutement assez large de personnalités issues de la société civile, ça a permis à ces deux formations de décrocher de bons scores qui pourraient potentiellement leur permettre ensemble de gouverner en Wallonie, de renvoyer la gauche dans l'opposition. Et ça, c'est peut-être le troisième, sans être trop long, enseignement, c'est le recul, surtout en Belgique francophone, de forces de gauche, du Parti socialiste, des écolos qui s'effondrent littéralement, mais également du PTB en Wallonie, là où on ne l'attendait pas véritablement, on s'attendait plutôt à une progression, et on voit néanmoins qu'il est en recul de manière assez étonnante.
Vous l'avez mentionné, les grands perdants de cette élection, ce sont les écolos.
Oui, je pense qu'ils figurent parmi effectivement les tout grands perdants de cette élection, plus encore si on considère que le coprésident Jean-Marc Nollet n'a pas réussi à être réélu au niveau de la circonscription de Hainaut, là où il était candidat. D'ailleurs, lui-même et sa collègue coprésidente du parti, Raja Mawan, ont annoncé leur démission du parti, de la présidence du parti singulièrement, sans remettre en cause leur militantisme, bien entendu. C'est évidemment un échec assez important qui peut trouver plusieurs éléments d'explication. C'est un parti qui a participé, qui a pris part au gouvernement au niveau bruxellois, wallon, à la communauté française et au fédéral, durant la législature. On peut donc davantage questionner leur bilan, ce qu'ont vraisemblablement fait toute une série d'électeurs qui ont pu éventuellement être déçus, par exemple par le plan Good Move, dont la responsabilité leur a été vraisemblablement imputés, par une taxation automobile, la fiscalité automobile en Wallonie, qui a pu être considérée comme menée à mi-chemin, n'ayant pas été complètement aboutie, ou encore au fédéral, si on considère le réinvestissement dans l'armée, ou encore la prolongation de deux réacteurs nucléaires, qui n'auront vraisemblablement pas profité à des formations dont, historiquement, le noyau idéologique repose sur la sortie du nucléaire. Autant d'éléments liés à la gestion publique par les écologistes durant cette législature, auxquels on peut ajouter bien évidemment le contexte. Le contexte a été beaucoup moins favorable en Belgique aux écologistes. On est loin de 2019 et de ces marches pour le climat qui avaient permis aux questions climatiques et environnementales de se hisser au rang de priorité pendant la campagne. Aujourd'hui, au même titre que la santé, sans doute, ces questions ont été assez absentes de cette campagne électorale, avec en parallèle d'autres thématiques qui ont contribué à réduire encore leur visibilité, notamment la mobilisation ou les mobilisations d'agriculteurs ces derniers mois, qui ont parfois eu peut-être comme impact de repenser, de questionner certaines politiques écologistes qui pouvaient être conduites. En tout cas, c'est ainsi qu'on peut interpréter le choix d'électeurs qui semblent s'être détournés assez massivement des partis écolos au nord et au sud, à l'exception de Groud en région bruxelloise qui se porte particulièrement bien.
Revenons sur le début de votre propos lors de votre première réponse, c'est le côté en Flandre, la NVA réussit son pari. Ce qui est impressionnant, c'est le score de Bart De Wever, il enregistre plus de 255 000 voix.
Oui, alors effectivement, c'est une personnalité, bon, on a vu assez présente l'émission Het Conclaaf diffusée ces dernières semaines, n'est certainement pas la seule responsable de ce score, mais a mis en évidence une personnalité bien particulière en ce qui concerne Bart De Wever, et qui a quand même une stratégie assez fine pour essayer de renverser la vapeur à nouveau, qui ne tenait pas à des sondages depuis 3 semaines, depuis 5 ans, avec un écart qui se creusait entre Vlaams Belang et N-VA. Ça a été cette stratégie, en toute fin de campagne et en dépit de l'ambiguïté qu'il a cultivée pendant très longtemps par rapport à Vlaams Belang, parti d'extrême droite, sur la toute fin de campagne, il a davantage fermé la porte à une perspective de collaboration, de rupture du cordon sanitaire, pour le dire autrement, de manière à finalement agiter le drapeau du vote inutile pour ce qui concerne le vote pour le Vlaams Belang. Et donc, on peut supposer que ça a effectivement contribué à ce renversement de la tendance en faveur de la NVA.
Pour terminer, donc le gouvernement de Croo a présenté sa démission auprès du roi. Qu'attendre dans les prochains jours, les prochains mois?
Alors c'est évidemment un classique. Au lendemain des élections, le Premier ministre est la première personne que reçoit le roi dans le cadre de ses consultations post-électorales, qui vient remettre alors la démission de son gouvernement. Après lui sont reçus traditionnellement la présidente, en l'occurrence Eliane Thilieu, de la Chambre, la présidente du Sénat, Stéphanie Dose en l'occurrence, et puis généralement, par ordre d'importance, les présidents, présidentes des partis qui ont obtenu des sièges à la Chambre des représentants. C'est ce qu'on qualifie de consultation post-électorale et royale. Après cela, le roi, généralement, charge un informateur, voire un duo d'informateurs, de poursuivre cette mission et de permettre de débroussailler le terrain en prenant le pouls finalement de l'état des rapports de force, des possibilités, des perspectives de coalition ou d'exclusion bien particulières.
Oui, et au vu des résultats du MR et de la NVA, on doit s'attendre à retrouver un gouvernement de droite en Belgique?
Il est encore tôt pour pouvoir anticiper évidemment la nature que prendra ce gouvernement qui succédera au gouvernement de Croo. Néanmoins, il est clair que les gagnants au nord, c'est l'NVA, au sud, c'est l'EMR entre autres. Et donc, on a effectivement une tendance plutôt à droite qui est marquée, avec des perspectives éventuellement de Suédoises élargies aux engagés. C'est une réalité qui devient envisageable. Les engagés passent de 5 sièges à 15 à la Chambre. On voit déjà ici une progression assez nette pour ce qui les concerne et qui ouvre des perspectives éventuellement élargies à d'autres formations. Ça reste à voir. Il est très délicat d'anticiper aujourd'hui quand on sait que potentiellement une Suédoise impacterait ou impliquerait une nouvelle réforme de l'État, réforme de l'État qui pourrait être un os à ronger pour les différentes formations qui ne s'accorderaient vraisemblablement pas sur la question. Un seul élément pour l'illustrer, Georges-Louis Boucher, depuis plusieurs années, se présente comme Belgicain convaincu, malgré ses récentes déclarations par rapport à une éventuelle régionalisation de certains secteurs bien particuliers. Bart De Wever est favorable à l'éclatement de la Belgique. On voit très bien qu'il y a des points de friction éventuels assez nets qui peuvent apparaître.
Benjamin Billard, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus dans les prochains mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes politologue au CRISP. À bientôt.
Une bonne journée.